Bien, je voudrais vous apporter un message ce matin qui prend pour appui la fête de Hanouka qui va commencer dimanche prochain. Donc c'est une, on l'appelle aussi la fête des lumières, et d'ailleurs on parlera encore de lumière la semaine prochaine à travers Benjamin. Elle est aussi appelée la fête de la dédicace, on l'appelait aussi autrefois la fête des Maccabées. Et je voudrais prendre appui là-dessus. Et juste vous rappeler le contexte, en tout cas la situation initiale. Donc on est au 2e siècle avant Jésus-Christ, et c'est un roi séleucide qui s'appelle Antiochus Épiphane, qui profane le temple et qui interdit au peuple juif d'exercer leur rituel, leur sacrifice, et il les oblige à adopter des rituels païens. Donc ça, c'est le contexte, la situation initiale. Et on le voit de tout temps, c'est que la foi dans le Dieu d'Israël que nous avons, elle a toujours été mise sous pression, persécutée, et on le voit encore aujourd'hui. Cette foi dans le Dieu d'Israël, elle est sans cesse en proie à la persécution. Donc, ça sera mon premier point, et je cite toujours la parole. Oui, il y a toute une dynamique de persécution qu'on ne peut pas nier. Et je voudrais prendre Apocalypse 12. À la limite, je vais citer pas mal de passages. Je ne sais pas si tu arriveras à suivre. Donc, oui, difficile avec moi, je sais. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et là, il est indéniable qu'il s'agit du peuple d'Israël. Parce que c'est Joseph qui lui-même avait eu dans son rêve une vision donc d'une lune, d'un soleil et de onze étoiles, parce que lui c'est la 12e. Et bien sûr donc c'est Jacob qui représente le soleil, Rachel la lune, et bien sûr ensuite ses frères, les différentes étoiles. Et d'ailleurs on le voit aussi dans l'Ancien Testament, Israël est souvent dépeint comme l'épouse de Dieu. Et donc, je continue verset 2. « Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. » Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'est un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Avant, on a eu des chants dans lesquels on parlait de la crèche, de Jésus en tant qu'enfant. Et là, quelque part ici, on voit les coulisses spirituelles qui sont quand même assez terribles quand on pense aussi à ce qu'a fait Hérode pour, quelque part, éliminer ce danger. Donc, vous savez ce qu'il a fait donc aux enfants de 2 ans qui étaient en dessous à Bethléem. Un peu plus loin, verset 15, il est nouveau question de ce dragon qui est le serpent ancien, le diable. Verset 15, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, Israël, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc moi, la question que je voudrais poser, de qui s'agit-il ? De qui s'agit-il lorsqu'on parle du reste de sa postérité ? On donne 2 caractéristiques, ils gardent les commandements de Dieu, ils ont le témoignage de Jésus. Et il est clair, il est indéniable aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est fils spirituel, c'est dit à plusieurs reprises, fils spirituel d'Abraham. Abraham est notre père, donc on fait partie de cette postérité spirituelle. C'est aussi Jean qui nous dit qu'en tant que chrétien, on est appelé à garder les commandements de Dieu qui ne sont pas pénibles et qu'on est bien sûr appelé à croire au Messie. Donc on est concerné par toutes les manigances, par toutes les manœuvres de l'ennemi. Je ne vous apprends rien par rapport à cela. Et il est dit aussi au verset 13 que le dragon poursuivit la femme. Par conséquent, il poursuit aussi le reste de sa postérité. Et donc, quand on parle de poursuite, on parle de persécution, on parle d'intimidation, on parle de menace, et force est de constater que de nos jours en particulier, on voit cette dynamique aussi bien au niveau du peuple d'Israël qu'au niveau du corps de Christ. Encore dernièrement, on a appris qu'au niveau d'Israël, les terroristes se réorganisent au niveau de plusieurs fronts dans le but de nouveau intimider, voire attaquer Israël. Et inutile aussi de vous parler, du Nigeria. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas tellement au niveau des médias. C'est terrible ce qui se passe là-bas, avec cette prise d'otage, ces enfants qui sont capturés, ces enfants d'une école catholique. Et d'ailleurs, les assaillants leur posent souvent la question « Es-tu chrétienne ou musulmane ? Es-tu chrétien ou musulman ?» C'est l'ONG Porte Ouverte qui a fait le calcul suivant et qui a dit qu'en 2023, 365 millions de chrétiens furent persécutés. Donc, c'est une réalité, ce texte d'Apocalypse 12. Et non seulement il y a cette intimidation, cette persécution, mais on voit aussi qu'il y a une tentative aussi d'isolement, à la fois d'Israël et du corps de Christ. Tout, on voit que ça se fait en parallèle. Je pense par exemple, revenir en arrière 2020, toute cette époque avec la Covid, et toute cette histoire bizarre au niveau des médias par rapport à l'église Porte Ouverte. Dire, ah ouais, c'est eux, ce sont eux qui ont fait ça, alors qu'il y avait, je crois, quelques jours avant, il y avait le président de la République qui était là, toute une foule, à Mulhouse même. D'ailleurs, dans Apocalypse 12, il nous est dit aussi que le diable séduit toute la terre. Donc c'est normal, après, qu'on voit cela au niveau de certains médias. Au niveau d'Israël, un autre exemple concret, parce que ça se manifeste, ça s'incarne dans le concret. L'Eurovision aura lieu à Vienne en 2026. Il y a des pays, certains pays, là je les ai sous les yeux, les Pays-Bas, l'Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Slovénie, qui ont dit, si Israël participe, nous on boycotte. Non, on ne vient pas. Et cette persécution, elle se traduit bien sûr aussi par de l'accusation. Je pense à un exemple plus récent, c'est l'église MLK et ce reportage aussi qui a eu lieu, qui était pour un procès à charge, accusation. Et inutile aussi de dire aussi comment Israël est accusé actuellement. Je ne nie pas les imperfections, ni d'Israël, ni du corps de Christ. Non. Mais force est de constater qu'il y a quand même cette vague d'accusations qui est là, et on sait ce qu'il y a derrière. Donc c'est une persécution à tous les plans. Donc physique, menace physique aussi, comme on l'a vu, mais c'est aussi une menace spirituelle, une persécution spirituelle. Et qui dit persécution spirituelle dit aussi persécution culturelle, parce que absolument rien n'est neutre. Et donc, pour revenir juste à ce roi Antiochus Épiphane, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait forcer donc les Juifs à abandonner leur foi dans le Dieu d'Israël et adopter les croyances grecques et la culture grecque. Ça va bien sûr de pair. Et inutile aussi de vous dire à quel point on ressent aussi de manière subtile toute une pression de l'esprit du monde aussi, notamment au niveau des divertissements. Je le vois surtout à l'époque de Noël, on propose beaucoup de choses, beaucoup de produits, beaucoup de séries, ainsi de suite, et on ressent cette tentative aussi de détourner notamment nos jeunes et nos enfants de la foi dans le Dieu d'Israël. Alors après, vous pouvez dire, oh là là, mais ce matin, alors qu'on parle de lumière, il est en train de brosser un portrait assez sombre. Moi, je pense, sombre, t'enlèves un M, ça donne sobre. Je pense qu'il faut être sobre, rester sobre. Et rester sobre, c'est quelque part avoir cette petite veilleuse que les enfants ont. Et c'est simplement être vigilant et pas tomber dans la paranoïa, mais simplement être vigilant. Et il y a bien sûr de l'encouragement. Il faut savoir que les Juifs, dans le cadre de cette fête de Hanouka, ils récitent le psaume 30. Et juste deux versets que je vais vous citer, issus de ce psaume. « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, comme on l'a aussi chanté avant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Et je crois vraiment que c'est important qu'on puisse prier pour que nos proches... Ah ben, elle prie. C'est important qu'on puisse vraiment prier pour que nos proches qui sont dans des soirs de pleurs, pour qu'ils puissent vraiment ensuite arriver à ces matinées d'allégresse. Et c'est Benjamin qui nous rappelait ce verset qui est important, Romains 12:12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Donc en tout cas aussi cette consolation qu'on a, c'est que oui, il y a des soirs de pleurs, mais qui un jour feront place à un matin d'allégresse qui sera éternel avec notre étoile du matin Jésus-Christ. Mais quand on dit réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, là ça veut dire qu'on n'est pas là victime dans la victimisation, ah, le méchant monde, mais c'est que on est dans la résistance. Ça, c'est déjà le premier pas. Rester dans la joie, ça, c'est déjà un acte de résistance. Rester dans la joie, être patient aussi et persévérer. Là, on est dans la résistance. Donc, ça va être le point numéro 2, résistez-lui. Et Benjamin avait aussi cité ce passage, 1 Pierre 5:8. Soyez sobre, comme je l'ai dit avant, veillez votre adversaire, le diable, rôde, hein, à l'image de ce dragon, comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera, donc il cherche, il persécute, il poursuit. Résistez-lui avec une foi ferme. Et c'est ce que les Maccabées ont fait. Ils ont résisté. Alors qu'ils étaient en infériorité numérique, Ils y sont allés. Et ce qui est beau, c'est que c'est la prière aussi qu'ils font, dans le cas de Hanouka. Ils ont cette prière de reconnaissance et ils disent à Dieu, ils remercient Dieu, je cite, d'avoir livré les forts entre les mains des faibles. D'avoir livré les nombreux entre les mains des peu nombreux. Les méchants entre les mains des justes. Et parfois, on peut être justement intimidé par le faible nombre qu'on représente en tant que chrétien né de nouveau, notamment en France. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas l'histoire l'a montré et va le montrer encore. C'est que c'est pas la majorité qui l'emporte, c'est la vérité qui l'emporte, tout simplement. Et donc, ces combattants juifs, ils ont résisté. Alors qu'ils étaient en infériorité, ils ont quand même vaincu, l'armée grecque à l'époque, je pense, c'était pas mauvais, quoi, hein, avec les Séleucides, c'était pas si mauvais que ça, on va dire. Donc ils les ont vaincus et ils ont réussi ensuite à reconsacrer le temple de Jérusalem à Dieu. Et c'est pour ça que pour nous chrétiens, cette fête des Lumières, Hanouka, elle peut nous parler non seulement de la victoire que Dieu nous accorde, quel que soit le nombre que nous sommes. Et deuxièmement aussi, je pense qu'il y a une leçon qu'on peut en retirer en tant que chrétien, dont Benjamin a aussi parlé, c'est que restons fermes dans l'adoration, y compris dans la souffrance. Y compris dans la souffrance. Et que c'est un acte d'adoration particulier. Quand tout va mal, on reste dans l'adoration. Et par rapport à 1 Pierre 5:8, soyez sobre, votre adversaire rôde, il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'1 Pierre 5:8 est précédé d'1 Pierre 5:7. Et 1 Pierre 5:7 nous dit quoi? Et je trouve que c'est important. C'est que Pierre nous dit d'abord, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et après, dans la foulée, il dit, oui, le diable y rôde, résistez-lui. Mais ça commence d'abord par la provision de Dieu et la protection de Dieu. Ok, point numéro 3, s'il te plaît. Là aussi, je cite la parole, on trouve ça dans 2 Corinthiens. C'est Paul qui parle de cette condition qu'il vit. Persécuté, mais non abandonné. Et donc, on a notre Père, qu'on a célébré avant, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucune ombre de variation. Et je voudrais juste relever un passage qui me paraît vraiment important dans les divers combats qu'on peut vivre chacun. Dans 1 Corinthiens 10:13, il est parlé de la tentation. Et la tentation, elle peut adopter de multiples formes. Ça peut être, bien sûr, tentation de péché, mais ça peut être aussi une tentation de céder à divers esprits, esprits de découragement, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est plus vaste que ça, la tentation. C'est pas uniquement par rapport au péché. Aucune tentation ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, et il l'est encore parce qu'il ne change pas, donc il est fidèle envers nous, il est fidèle aussi à lui-même, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et parfois l'ennemi veut peut-être te dire, de toute façon tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Ah ouais, tu renonces pas dans ce péché, mais tu n'y arriveras pas. Mais c'est un mensonge. Mais avec la tentation, c'est ça qui est beau. Non seulement il fait en sorte qu'on ne soit pas tenté au-delà de nos forces, mais il va plus loin. Il prépare aussi le moyen d'en sortir. Et ça, on le retrouve dans la fête de Hanouka avec la fiole d'huile. C'est-à-dire que les Maccabées, ils avaient un petit problème. Et je vais y revenir plus tard. Mais par rapport à ce petit problème de fiole d'huile que vous connaissez tous. Mais ce qui est beau, c'est que dans toute cette situation qu'ils traversent et que nous traversons aussi, il y a un berger qui est là. Il y a un berger qui est là. Et un berger qui veille. Et c'est 1 Pierre 2:25 qui dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » C'est lui le pasteur. C'est lui le pasteur. Et d'ailleurs, par rapport à Hanouka, il faut savoir que Jésus, à l'époque, en tout cas, c'est un évangile qui nous rapporte que Jésus se promenait lors de la fête des dédicaces. Il était sur le portique de Salomon, au temple. Et là, c'est intéressant. Les Juifs engagent une conversation avec lui. Et lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit notamment, écoutez bien, « Mes brebis entendent ma voix. » Voilà, il met l'accent sur le statut de berger qu'il a. « Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. » Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et ça, c'est Jean 10. Dans Jean 10, tu trouves cet épisode. Donc Jésus qui, dans le contexte de Hanouka, rappelle qu'il est le grand berger et que personne ne pourra nous ravir de la main de Dieu. Quel que soit les persécutions, quelles que soient les intimidations. Donc j'ai parlé de cette petite fiole d'huile, tu peux passer au point suivant. Visiter pour éclairer. Donc je cite toujours la parole. Donc ces combattants juifs qui étaient dirigés par Judas Maccabée, donc qui ont réussi à reprendre le temple quelque part, ils avaient juste un petit problème, comme vous le savez, c'est qu'ils ont retrouvé une seule fiole d'huile qui normalement aurait dû suffire seulement à éclairer la ménorah pour un jour. Mais ils avaient besoin de 8 jours pour refabriquer donc assez de fioles d'huile selon des conditions de pureté rituelle. Et donc ils étaient là à dire, mais comment on va faire pour les jours suivants? C'est pas possible. Et là, voyez, comme Dieu prépare le moyen de sortir de la tentation, il leur prépare le moyen, d'accord? Et pour moi c'est une forme de visitation, d'intervention miraculeuse, et il y a assez d'huile, ils ont assez d'huile, donc qui leur permettra de laisser donc le chandelier allumé jusqu'à la production de la nouvelle huile quelque part. Et donc c'est ce que voilà les Juifs célèbrent donc avec ce qu'on appelle ça, c'est une Hanoukia. Donc tous les jours, donc il y a 8 branches, je vais parler de la 9e branche, il y a 9 branches en tout, 8 branches, et donc une qui se distingue un peu des autres, je vais encore en parler après. Et donc, vous savez, chaque jour, donc ils allument une lumière, une bougie, pour se remémorer, donc se souvenir de ce miracle de provision de Dieu. Et moi, la petite fiole d'huile qu'ils ont retrouvée, moi ça me parle à titre personnel, aussi de nos pains et de nos poissons que nous apportons, notre petite part que nous faisons, mais ensuite c'est Dieu qui multiplie. Moi ça me parle aussi, je crois que tu en avais parlé avant dans ton introduction aussi, parfois d'un petit lumignon, une petite lumière qu'on peut avoir peut-être dans certains domaines de notre vie où j'ai envie de dire, c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est le niveau d'huile quoi, c'est le niveau de foi, il est pas très élevé dans certains domaines de nos vies. Et on peut aussi avoir des proches, des proches qui sont éloignés de la foi et qui ont, chez qui reste un tout petit lumignon. Et là aussi, on peut faire cette prière pour nous et pour nos proches. Seigneur, s'il te plaît, souffle sur les braises. Souffle sur les braises. Intensifie ce feu. Intensifie ce feu. Pour qu'ils reviennent à la maison. Et à propos de visitation, c'est vrai que c'est Jésus qui déplore que le peuple n'a pas connu le temps où il a été visité. Nous, on a eu ce privilège d'avoir été visité d'en haut, et on trouve ça dans Luc 1,78, j'aime beaucoup ce passage, où il est question des entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle, cette miséricorde, le soleil levant nous a visité d'en haut. Et écoutez la suite. Quel est le but de cette visitation, de cette lumière d'en haut? Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Quand tu es assis, tu es paralysé, tu vois rien, tu bouges pas. Ça, c'est l'objectif. C'est aussi notre objectif. D'accord? C'est pas de garder la lumière pour nous. Et d'ailleurs, j'aime bien ce rituel Hanouka. C'est une lumière après l'autre. Il y a une multiplication. Et on est appelé à la partager, cette lumière. À éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et ensuite, il est dit aussi pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. On est appelé à marcher, à être en mouvement, mais à rester dans la paix. Alors, oui, Israël n'a pas, en tout cas pour la plupart du peuple juif, pour des gens juifs à l'époque, ils n'ont pas connu ce temps où ils ont été visités, mais comme vous le savez, donc là, ils vont connaître ce temps de visitation, ça nous est dit clairement, juste dans Zacharie 12:10. Et là, c'est assez intéressant, parce qu'il est dit que Dieu va déverser un esprit de supplication de grâce sur le peuple, et là il est dit... Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, vous connaissez le passage, mais là, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. C'est quand même intéressant de faire le parallèle avec Israël, qui est représenté aussi comme une maman, comme la maman de Jésus, quoi, et qui va reconnaître son fils, donc ça va être quelque chose de particulièrement fort. Donc, pour faire le parallèle aussi avec notre vie chrétienne, l'huile a été suffisante. Dans cette redédicace du temple, mais pour nous bien sûr le sang de l'agneau a été suffisant pour nous racheter. Et il y a un passage que j'aimerais aussi vous lire, j'ai vraiment à cœur de vous lire, et ça fera la transition avec ma partie suivante, c'est dans Hébreux 13:20, ça résume un peu ce que j'ai dit, et ça c'est une belle prière je trouve. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur, le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Donc ici on voit bien que le but du rachat, le but de cette provision, c'est qu'on œuvre pour le Seigneur. C'est qu'on œuvre. Et non seulement on est appelé à l'action, c'est d'ailleurs Werner qui nous l'a bien rappelé dimanche dernier, on est appelé à l'action concrète, mais ce qui est beau ici, c'est que Dieu nous dit « moi je te rendrai capable de le faire ». Il y a les deux. C'est-à-dire que nous on vient avec notre petite fiole d'huile, mais lui il vient la multiplier. Parce qu'il dit « moi je te donnerai la capacité dont tu as besoin pour œuvrer, pour apporter la lumière ». Ok, on peut passer à la point suivant. Donc là... On passe donc d'un côté un peu plus sombre avec la persécution dont j'ai parlé, au côté victoire. Donc dans le même chapitre, Apocalypse 12, vous connaissez ce passage, ils l'ont vaincu. La victoire est assurée, mais par quoi? Par le sang de l'agneau. Et je crois que c'est important de revenir là-dessus, parce qu'il y a un petit problème, un petit syndrome qu'on peut trouver au sein du peuple de Dieu. Et je crois que personne n'est à l'abri de cela. C'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Ce qu'il est bien dit, par le sang de l'agneau. C'est pas par le mien, c'est pas par le tien. Et j'ai été touché par le témoignage de Chris Vallotton, donc ce ministère prophétique à Bethel, qui a vécu une dépression. Et dans le cinquième mois de sa dépression, le Seigneur, il lui a dit, mais c'est qui le sauveur? C'est moi ou c'est toi? Parce que lui, il était complètement, il était oppressé parce qu'il se rendait compte, il avait tellement de demandes de gens qui imploraient son aide. Et il dit, mais chaque jour, je déçois plus de gens que j'aide de gens. Jusqu'à ce qu'il comprenne que le Seigneur dit, mais non, c'est moi le sauveur, c'est pas toi. Et... Oh. Et vous savez, par rapport à cette poursuite du serpent, moi ce qui m'a interpellé un peu au niveau personnel, au niveau local, c'est qu'il y a quelques mois en arrière, il y a plusieurs rêves qui ont été faits, c'était même plutôt en début d'année. Il y avait Luc qui a rêvé d'un serpent. Jocelyne a rêvé d'un serpent. Moi j'ai rêvé d'un serpent. Huguette, ok, je ne savais pas. Huguette aussi a rêvé d'un serpent. Non. Ok, j'ai pas compris. Huguette, c'était plus tard? C'est ça, ok. Mais ce qui m'a frappé, donc là, c'est clair que ça parle d'intimidation et ainsi de suite, parce que c'était pas des rêves très gais. Mais par contre, la fin du rêve, en tout cas pour Huguette, je sais pas, mais pour Jocelyne et Luc, à la fin, il y a eu combat, mais ensuite, le serpent, il a été fracassé. Fracassé. Par le sang de l'agneau, il a été fracassé. Et donc pour dire, oui, on est passé oui, par des combats, mais Dieu veille, le berger est là. Mais par contre, je sais que dans le rêve, je crois que Luc, il a dû lui écraser la mâchoire, je sais plus, et je crois que chez Jocelyne, je crois que c'était le couteau, enfin bon. Il dit, bon, il était un peu hargneux, mais bon, ensuite, elle l'a... Ouais. Et ce qui était quand même intéressant, bon, je dis ça en rigolant, mais finalement, j'en rigole pas trop, parce que Ce rêve de Jocelyne, c'était par rapport aussi à notre famille. Et quand je vois aussi les combats par lesquels ma famille est passée, waouh. Mais ensuite, je dis merci Seigneur, parce que là, il y a quand même une superbe évolution. Quand je vois, voilà, notre Elisa, par exemple, aujourd'hui, il y a un an, je dirais, il n'y a pas photo, merci Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle. Et ensuite, par contre, il est dit qu'on l'a vaincu par le sang de l'agneau, mais ça ne s'arrête pas là. Tu peux aller? Ouais. Et par la parole de leur témoignage. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique qui mène à la victoire. Ils l'ont aussi vaincu par la parole de leur témoignage, de ton témoignage, de mon témoignage. Donc ça aussi, quelque part, c'est notre part à faire. Et il est dit un peu plus loin, ils n'ont pas aimé, enfin c'est la suite, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ce qu'on appelle le courage. C'est ce qu'on appelle le courage, dont ces combattants juifs ont fait preuve, et courage dont on a besoin aussi au quotidien. David a beaucoup parlé de lumière aussi, dans son introduction, et je crois qu'il y a un passage incontournable par rapport à la lumière, c'est qu'on est appelé enfant de lumière, on est appelé à marcher comme des enfants de lumière, donc ça parle de mouvement, ça parle d'action, et il est dit... Alors après, tu dis, c'est quoi la lumière? Marcher, c'est quoi? Et donc, on donne une triple caractéristique de la lumière qui me paraît importante. Justice, bonté, vérité. C'est dit ça dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Les fruits de la bonté, justice, bonté et vérité. Hein, c'est Isabelle qui nous citait aussi Michée 6:8, hein, qui dit, voilà, on t'a fait connaître ce qui est bien, que tu pratiques la justice... et que tu aimes la miséricorde, que tu pratiques la miséricorde, la bonté, justice, bonté et vérité. Et c'est aussi Werner qui nous appelait aussi à vivre de manière authentique un amour pour notre prochain. Tu donnais cet exemple de l'autostoppeur à qui tu as annoncé l'évangile, la vérité. Bonté, justice, vérité. Donc, on est appelé... J'ai envie de dire, on est appelé à être cette Hanoukia. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette image? Parce qu'il y a de la neige. Oui, parce que la Bible nous dit aussi qu'à un moment donné, l'amour va se refroidir. La foi va se refroidir. Et donc c'est à nous vraiment de garder notre Hanoukia personnelle allumée et de la faire briller pour les autres. Et ça commence dès le matin. Et il y a quelques semaines, on a assisté à un séminaire avec le ministère prophétique Pierre-Daniel Martin. Et lui, il nous a enseigné quelque chose de très simple qu'il appelle la prière au carré. dire, ben voilà, comment, quelque part, comment te positionner dès le matin? Parce que les matins, la manière dont tu te lèves le matin, elle va être décisive. Plus encore plus décisive que les circonstances. Et là, il donne, la prière au carré, c'est quatre points, quatre pistes qu'il nous donne pour bien se positionner dans la matinée, donc pour la journée. Premier point, se consacrer à Jésus. Tu consacres ta journée au Seigneur Jésus. Tu invoques le nom de Jésus et son sang sur toi et sur ta famille. Deuxième point, tu demandes au Seigneur Jésus, tu lui demandes, Seigneur, fais que ta parole résonne dans mon cœur, que ta parole percute mon cœur, afin que je puisse t'obéir et afin que la foi et l'espérance puissent être libérées au cours de ma journée. Troisième point, demandez au Seigneur que l'onction de son esprit soit particulièrement agissant en nous, afin qu'on puisse bénir les personnes avec les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Et quatrième point, c'est briser toute attaque enflammée qui voudrait venir sur nous et sur nos proches, et demander au Seigneur, lui demander de nous aider à être un témoin efficace afin que l'on puisse briller. Il a dit cela, afin qu'on puisse briller, non seulement dans la communion fraternelle, au sein du corps de Christ, mais aussi qu'on puisse briller dans l'amour pour les perdus. Et c'est quelque part ce que Werner avait aussi vécu avec ce jeune dans la voiture. Et le Saint-Esprit. Donc je vous avais parlé, je vous avais parlé là de cette neuvième bougie, si on veut. Ça s'appelle le shamash, c'est la lampe servante. C'est elle qu'on utilise pour allumer les autres bougies. Et ça nous parle bien sûr du Saint-Esprit. D'ailleurs, l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Et c'est bien sûr par le shamash, par le Saint-Esprit, que nous sommes appelés à œuvrer. Et par rapport à cela, j'ai relevé un passage que je trouvais très encourageant, parce qu'on avait vu dans Apocalypse 12 que le serpent, il attaque en utilisant l'image du fleuve. Il poursuit avec un fleuve pour faire tomber, pour faire couler. Et là, qu'est-ce qui est dit dans Ésaïe 59:19? Alors, qu'est-ce que j'aime ce passage? Tu peux le prendre, s'il te plaît, quoique c'est peut-être un peu... peut-être compliqué de passer à autre chose. Mais sinon, je lis, il n'y a pas de souci, David. Ésaïe 59:19, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Amen. Et... il y a un autre passage aussi dans lequel, c'est un passage touchant, dans lequel Paul, il exhorte les chrétiens à être des lumières, à être des flambeaux, il dit dans une génération perverse, au sein d'une génération perverse, il dit soyez un flambeau, dans l'épître aux Philippiens, soyez un flambeau, portez la parole de vie. Donc ça va ensemble, et ce qu'il dit, moi je trouve que c'est vraiment touchant, il dit... porter la parole de vie et je pourrais me glorifier de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. C'est-à-dire quelque part on est attendu. Il y a une nuée de témoins qui nous a passé le relais et on est attendu. Portons la parole de vie. Et dans Acte 8, vous connaissez tous cette grande persécution qui a eu lieu contre l'église de Jérusalem. Donc les gens sont dispersés. C'est là encore Saul, il était encore bien ennemi encore des chrétiens. Donc ils ont été dispersés. Il est dit que tous furent dispersés. Mais moi j'aime la réaction de ces dispersés. Il est dit, ceux qui avaient été dispersés, est-ce qu'il est dit, ceux qui avaient été dispersés, ils attendirent leur pasteur. Ils attendirent le feu vert du pasteur et ils étaient là, terrorisés dans leur maison. Mais que va nous dire notre pasteur? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ceux qui avaient été dispersés, j'ai la parole, allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'était en eux. Ça, c'était en eux. Ça, c'est l'église apostolique. En eux. C'était en eux. Et on y va. On fonce. Et ça va être mon dernier point. Donc, la parole de ton témoignage. Annoncer la parole de vie. Et là, je voudrais vous donner quelques pistes. Bien sûr que ça parle d'évangélisation, ça parle d'annoncer la lumière. Et il y a bien sûr différentes manières d'évangéliser. On a des évangélistes parmi nous. Moi, je voudrais juste vous en parler d'une, pour finir. Et en tout cas, c'est une manière d'évangéliser qui me parle, vu mon histoire, vu mon arrière-plan. Et peut-être qu'elle parlera aussi à certains. Il est dit aussi dans Acte 2, il est dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est le Dieu le Père qui le dit, qui s'adresse au Fils Jésus-Christ. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied. Moi j'aime, à titre personnel, l'évangélisation par les marchepieds. Après, je ne dis pas que c'est la seule manière de faire. Moi, ça me parle. Et un premier marchepied, c'est-à-dire, tu utilises le marchepied de l'ennemi et tu t'appuies dessus, ensuite, pour annoncer la lumière. Et un premier marchepied qui m'a... c'est celui de l'ésotérisme, celui du New Age. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a fait une église allemande. C'est qu'ils avaient dans leur... C'était à Stuttgart. Ils avaient une sorte de foire expo, là, de... Je ne sais pas comment ils appellent ça, de l'ésotérisme, ainsi de suite. Ils sont allés proposer un stand. Et c'était un stand pour la guérison. Ils ont, voilà, un stand de guérison. Et les gens sont venus. Ils ont annoncé la lumière de Christ. Et ils ont prié pour eux. Ils ont fait des disciples à cet endroit-là. Ils ont fait, donc, ils ont utilisé, quelque part, les pièges de l'ennemi pour annoncer la parole. Mais ils sont allés dans un monde enténébré, ils sont allés avec la lumière. Un autre marchepied aussi, c'est celui du rationalisme. C'est celui qui m'a parlé à moi, parce que moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne pratiquante. Donc moi, j'ai baigné dans le rationalisme toute ma vie, le matérialisme, le rationalisme. Et donc, et tout ce qui est aussi discours scientifique. Et donc pour moi, ça avait un certain poids. Et... il y en a un autre, quelque part, j'ai envie de dire, je vais pas oser dire qu'il avait le même arrière-plan que moi, mais Luc, prenez l'évangéliste Luc dans la Bible, c'était un médecin non-juif. Comment est-ce que lui, quelle a été sa motivation pour écrire son évangile? Il s'est adressé à son ami Théophile, un certain Théophile, et il lui a dit... Écoute, j'ai fait des recherches exactes, méticuleuses, ah ben c'est un médecin, et je te les présente pour que tu sois assuré de la certitude des enseignements que tu as reçus. En gros, tu as eu des enseignements, on t'a annoncé l'évangile, mais peut-être que cher Théophile, tu combats, je ne sais pas, avec ta pensée. Moi, je t'amène des choses précises, qui vont confirmer la parole. Et je voudrais vous présenter ce matin un petit livre d'évangélisation que j'ai eu vraiment à cœur d'écrire. Et je vous propose de l'acquérir pour l'offrir à, je sais pas, ta cousine, ta voisine, à ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous savez que... on a constaté que 17 millions de personnes posent des questions à des moteurs de recherche chaque jour concernant l'existence de Dieu. 17 millions de personnes. 200 questions par seconde sur l'existence de Dieu. Donc il y a une soif qui est là. Il y a une soif qui est là, mais il y a un mais. C'est que je ne sais pas si vous connaissez Raphaël Hansenberger, il est prof à la fac de théologie de Vaux-sur-Seine, et il était prof d'études culturelles. Et lui, il a dit, dans nos sociétés qui sont enténébrées comme ça de rationalisme, les gens, ils veulent avoir des explications, ils veulent avoir des justifications. Parfois, ça ne suffit pas que d'annoncer l'évangile. Et d'ailleurs, à l'époque de Jésus déjà, et un peu après, qu'est-ce qui se passait? Il y avait déjà le miraculeux qui était nécessaire pour confirmer la parole. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens même, alors qu'ils étaient presque contemporains, ils avaient encore besoin du miraculeux. Et c'était l'initiative de Dieu aussi de confirmer la parole par du miraculeux. Mais est-ce que c'est pas, quelque part, à plus forte raison encore nécessaire 2000 ans après? Et bien sûr que lorsqu'on annonce la lumière, on fait appel au Saint-Esprit, au Shamash, la lampe servante. Parce que c'est elle qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais moi je crois que ça va de pair avec la petite fiole d'huile qu'on apporte. Si je peux vous montrer le nombre de passages que Paul, dans lesquels Paul utilise la persuasion. Oui. Après vous pouvez dire, oh mais Paul il aurait pu faire, à différents moments il aurait pu faire des miracles et c'est ce qui a été fait, Dieu l'a utilisé. Mais à combien de reprises Paul a utilisé le langage de la persuasion avec le Saint-Esprit? Et beaucoup ont été convaincus, ont été persuadés. Donc, on est d'accord. On veut éviter tout extrême et tout débat stérile. Mais je pense que si on ne va pas, on rejoint pas un tout petit peu nos contemporains sur leur terrain, qui est souvent le rationalisme, ou le, je ne sais pas si on dit le scientisme, je crois que ça existe, c'est le scientisme, quelque part, je pense que pour certains, ça aurait été peut-être mon cas, quelque part, un peu trop, je dirais presque sectaire, comme ça, c'est comme ça. Oui, mais moi j'avais tellement de questions, au début de ma conversion, tellement de questions. Je suis tellement content d'avoir eu des personnes qui ont pris le temps de m'écouter et qui m'ont expliqué les choses. Et beaucoup de livres aussi, et pas des gens qui m'ont dit « mais arrête avec tes questions » et ainsi de suite. Moi j'avais besoin de ça, ça c'est mon parcours. Et donc, dans ce livre que j'ai écrit, d'ailleurs c'est le fruit de toutes mes recherches, de toutes ces années, dans ce livre, j'amène le lecteur à suivre les traces d'un célèbre évangéliste. Et cet évangéliste qui prêche Christ, ça bien sûr, le livre contient bien sûr les fondements du salut, les premiers pas de disciples, et ainsi de suite. Mais à un moment donné aussi, le lecteur va être confronté au miraculeux. Et là, je le sais, je sais comment mes contemporains raisonnent, en tout cas ceux qui ont été élevés comme moi, dans une atmosphère rationaliste, c'est « mais ces miracles-là, c'est bien beau, ils ont eu lieu il y a 2000 ans. Mais de nos jours, est-ce que ce genre de miracle a encore lieu ?» Et là, c'est là où je lève la main, je dis « oh oui, oh oui ». Et après, il veut dire « ouais, mais c'est qui ? C'est des gens qui disent « oui, Dieu m'a guéri, où sont les preuves ?» Je dis « tu veux des preuves ? Moi, je t'en donne ». Et c'est ça le fruit, c'est une de mes passions, quelque part, c'est de découvrir tout le fruit des recherches d'universitaires, de théologiens, de médecins, de généticiens qui ont dit le miracle de Dieu est encore là. Est-ce que tu peux juste avancer un peu? Ça c'est une dame, une universitaire, donc qui a étudié à Harvard. Et vous voyez, après vous pouvez dire, mais Fabrice, arrête de nous parler de gens qui sont diplômés. Mais c'est le terrain! C'est le terrain de nos contemporains. Eux, ça les sécurise d'entendre ça. Ça les sécurise d'entendre ça. Donc c'est une dame qui a étudié à Harvard, donc une des plus grandes universités au monde. Et ce qu'elle a fait, elle a dit, moi, je vais étudier scientifiquement, je vais voir si le miraculeux existe. Et je vais voir si les guérisons existent encore de nos jours. Et donc, elle est allée voir des personnes qui priaient pour les yeux et les oreilles d'enfants et de personnes. Et ensuite, elle les a pris de côté, les gens qui ont eu la prière, elle les a examinés, bien sûr, avant et après. Et quand on l'a interviewé, on lui a dit, mais dis-moi alors, quel est le fruit de tes recherches par rapport au miraculeux de nos jours? Et elle répond, avec mon mauvais anglais, elle dit, something is going on. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ces résultats, les résultats sont excellent, et montre que la prière, elle est efficace. Et ce sont des scientifiques qui le disent. Et ça parle à certains de nos contemporains. Je ne sais pas si tu peux avancer. Alors, vous connaissez tous Jésus l'Enquête, c'est-à-dire ce film qui parle, c'est une histoire vraie, qui parle de Lee Strobel, ce journaliste dont la femme s'était convertie. Et lui, c'est un journaliste d'investigation à Chicago. Et Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et donc lui, en bon journaliste d'investigation, dit, moi je vais faire des recherches, d'où ce tableau. Et résultat, il a été retourné comme une crêpe et il n'arrête pas d'écrire des livres d'apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi chrétienne. Et lui, il a un peu, enfin, je veux dire, c'est moi qui ai la même approche que lui, il va sur le terrain des scientifiques, ainsi de suite, et de là, à partir de là, il extrait des pierres précieuses de témoignages et des choses qui sont absolument admirables. Et donc, il a écrit, un des derniers livres qu'il a écrit, c'est un livre justement sur le miraculeux. Sur le miraculeux, voilà, d'un point de vue bien sûr scientifique, une approche tangible, une approche rationnelle. De l'irrationnel. Une approche rationnelle de l'irrationnel. Là, il parle notamment de cette dame qui est atteinte de sclérose en plaques et qui a eu la prière et à un moment donné, comme c'est dit, the unexplainable occurs, c'est-à-dire et ce qui est inexpliqué arrive. Miracle. Que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Donc, tu peux avancer? Et donc Lee Strobel, là, cet homme qui avait un peu les cheveux longs, là, sur la diapo précédente. Donc c'est lui, ce monsieur qui était un sceptique. Et il a été tellement percuté par les fruits de ses recherches qu'il en a fait un film. Donc je ne sais pas comment on pourrait traduire David The Case of Miracles, preuve des miracles, ou evidence et les preuves, n'est-ce pas, the evidence behind modern, la preuve derrière des miracles modernes, et c'est un film qui va sortir aux États-Unis dans quelques jours. C'est tout frais. Oui, 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 là c'est tout frais, ça va sortir, tout à fait. Tout à fait. Et j'aimerais encore vous donner juste quelques petits exemples concrets, comme cela. Dans Matthieu 5, Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et un peu plus loin, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ah, oui, donc la persécution, elle est là, mais priez pour ceux qui vous persécutent. Et je pense notamment aussi à une prière aussi qui me paraît importante, et qui va peut-être vous surprendre, mais qui est dans la droite lignée de ce qu'il nous dit, dans la logique qu'il nous dit, c'est par exemple prier pour le Hamas. Est-ce qu'on a le réflexe de prier pour le Hamas? Et quand vous voyez ce qui se passe, vous voyez, c'est quelqu'un, quand on est en Israël avec Agnès, quelqu'un qui nous a dit aussi que c'était un tireur d'élite d'Arafat qui est venu à Christ et qui a établi son ministère à Jéricho. Il y a aussi ce témoignage d'un dirigeant du Hamas qui a eu un songe dans lequel Dieu lui parle, arrête! Arrête de persécuter mon peuple, et qui ensuite lui a dû fuir. Il y a un autre témoignage aussi que je voudrais relever. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de Arthur Blessit, c'était cet évangéliste qui portait une grande croix, la gigantesque, en Europe, je crois même dans le monde entier. Et lui, il est allé voir Yasser Arafat. Et Yasser Arafat, j'ai un peu étudié le personnage, quand vous voyez le père spirituel qu'il a eu, Yasser Arafat, qui lui a inculqué une telle haine des juifs à un Amalek. Son père spirituel, c'était un Amalek. Et donc, Arthur Blessit est allé le voir. Qu'est-ce que Arafat lui a confié? Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, que les gens ont le droit de savoir. Il lui a confié qu'il a vu des songes dans lesquels il a vu Jésus. Et suite à ça, vous avez un théologien, Kendall, tu connais peut-être? Kendall? Kendall, c'est son nom de famille. Le théologien Kendall, il a dit, pendant 20 ans, moi j'ai prié pour Arafat. Jusqu'au jour où il a pu aller le voir, et là il lui a proposé de voir, c'était plutôt vers la fin de sa vie, Arafat, il lui a proposé de voir un film sur Jésus. Il était présent, ce théologien, à ses côtés, et il a vu Arafat qui a commencé à pleurer. Et il a prié pour Arafat, Arafat lui a serré la main quand il a prié, et il l'a autorisé à prier pour les 30 collaborateurs qui étaient là. On ne sait pas si Arafat est allé plus loin dans sa démarche. Mais en tout cas, peut-être qu'on sera étonné de voir certaines personnes au ciel. Ouais. Et vous savez, là, après, on me dit, oh, il parle beaucoup des Américains et tout ça. aimer les Français dans tout ça. Mais vous avez des journalistes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Stéphane Alix. Stéphane Alix, c'était un journaliste d'investigation assez connu sur M6. Et jusqu'au jour, son frère est décédé. Et là, il a commencé à faire des recherches sur le spirituel. Et il est allé rencontrer Bruce Grayson, qui est le père des expériences de mort imminente. Et il lui a demandé à Bruce Grayson, il a dit, dites-moi, quel est, avec tous les témoignages que vous avez étudiés, peut-être des milliers de témoignages d'expériences de mort imminente, quel est le témoignage qui vous a le plus marqué? Mais je ne vais pas entrer dans les détails, mais Bruce Grayson, il a donné un témoignage d'un jeune qui a vécu cette expérience de mort imminente, et ce témoignage, qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie Christ. Ça, on a le droit de savoir. Vous voyez, ça, c'est quelque part la conjonction dont on a besoin pour avoir un point d'accroche avec des personnes qui sont encore dans cette fausse lumière, hein, ces fausses lumières de notre héritage français et grec, hein, qui sont en fait des ténèbres. Francis Collins, Benjamin, tu en as certainement entendu parler aussi, ce grand généticien. Il est dit que c'est un des plus grands généticiens du monde, il a eu des médailles, ainsi de suite, qui lui aussi, il confesse Jésus-Christ. Et Guy Maréchal aussi, dernier exemple. Guy Maréchal, dont on connaît le neveu Éric Maréchal, qui était directeur d'école chrétienne. Donc Guy Maréchal, vous avez déjà entendu parler, je pense, de Guy Maréchal. Donc Guy Maréchal aussi, qui avait eu une tumeur, on parlait de 40 cavernomes, alors je ne sais pas ce que c'est exactement, 40 cavernomes, je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement. Et là aussi, il a été le fruit de la prière, et donc, vous avez une sommité mondiale, quelqu'un là qui avait fait une sorte de substitut de cœur, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui a témoigné dans son livre et qui a dit, ce Guy Maréchal, c'est un miraculé de la médecine. Il a dit, et ce professeur disait, cette disparition, parce que ces 40 cavernomes qu'il avait au niveau du cerveau ont disparu suite à la prière. Il a dit, ce que Guy a vécu, ça confine au paranormal. Oui, même les professeurs, ils sont là à s'incliner devant le miraculeux de Dieu. Et est-ce qu'on peut montrer juste une petite... Ah oui, donc là aussi, un autre universitaire qui a eu à cœur aussi d'étudier le miraculeux de nos jours. Donc, dans mes livres, donc je parle notamment de ces miracles qui ont eu lieu de nos jours et qui sont confirmés médicalement, et qui glorifie le Seigneur. Est-ce qu'on peut montrer la petite vidéo? Si ça va pour toi. Juste un exemple, ça va être en anglais, je vais le traduire après coup, ça ne dure pas longtemps. C'est une vidéo justement de Lee Strobel. Et Lee Strobel, lui, son truc quelque part, c'est ce qu'il appelle la corroboration. Corroboration, corroborer quelque chose, c'est confirmer. C'est, il dit, ben, s'il y a des miracles, ils peuvent être confirmés. Donc c'est pour ça que lorsque tu vis une guérison miraculeuse, moi je te conseille d'aller chez ton médecin et de lui montrer, de lui dire, voilà, ben allez, venez, on va faire une radio, ainsi de suite. Docteur, j'ai été guéri miraculeusement. Ah bon? Ok, ben venez, on va faire une radio. Ben déjà, apporter la lumière chez ton médecin, ça commence par là. Moi, je crois que c'est quelque chose, une dimension à retrouver. C'est ce témoignage d'une femme qui se trouve au Caire et qui a un rêve dans lequel donc le Seigneur lui apparaît. Et donc il explique aussi que là-bas, dans ces pays, qui sont quand même souvent très fermés à l'évangile, ben, quelqu'un ne s'endort pas musulman et se réveille le lendemain comme ça en tant que chrétien. Il y a encore des étapes. Et là, donc cette dame, elle a un rêve dans lequel le Seigneur lui apparaît, lui dit qu'il l'aime. Et il lui dit, mais il y a un monsieur qu'elle voit dans le rêve qui va un peu t'expliquer, qui va un peu te donner plus d'explications. Et donc le lendemain, elle rencontre ce monsieur, hein, je crois que c'était au marché, alors que ce monsieur, il n'avait pas trop envie d'y aller, je crois que c'était un vendredi après-midi, beaucoup de monde, mais le Seigneur lui a mis à cœur d'aller au marché. Et donc elle lui dit, mais je vous ai vu dans mon rêve. Et elle dit, vous avez eu un rêve? Vous avez eu un rêve de Jésus? Oui. Et donc il s'avère que ce monsieur, c'était quelqu'un qui implantait des églises clandestines. C'est ça la corroboration, vous voyez? Parce que Listrobel, il dit au début, oui, mais parfois les gens ont des rêves, mais est-ce que c'est peut-être pas le fruit de l'imagination, vous voyez? Mais là, quand on voit ce genre de témoignage-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ma question, est-ce que ça peut vraiment laisser, même des personnes empêtrées dans l'athéisme, ça peut les laisser indifférents? Peut-être, il y a le travail du Saint-Esprit, je suis d'accord. Mais je crois que c'est quand même important de s'appuyer aussi un tout petit peu au moins sur la culture des gens pour annoncer le Seigneur. Vous savez, Paul, il l'a fait, hein, dans Acte 17. Il est à Athènes, il annonce Christ, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais oui, mais certains poètes ont dit, certains de vos poètes ont dit, c'est, voilà, certains poètes, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Fête de la fête de Hanouka, Jésus, il a ce dialogue, ce débat avec le peuple juif. Eux, ils disent, ouais, tu te fais Dieu, tu blasphèmes. Qu'est-ce que lui, il dit? Qu'est-ce que lui, il dit? N'est-il pas écrit dans votre loi? Vous êtes des dieux? Il s'appuie quelque part sur le terrain culturel ou spirituel des personnes. Et alors, donc ça, c'est mon nouveau livre, c'est un livret d'évangélisation, pas très long, parce que je sais que de nos jours, c'est pas trop à la mode d'offrir des pavés, les gens ne lisent plus trop. Donc c'est un livre qui est assez court, enfin 100 pages, on peut dire, ah ben c'est long, ok, un peu plus court que les précédents. Et si vous voulez, je suis pas un marchand du temple, je le dis devant Dieu et ceux qui me connaissent, je suis pas là pour dire, ah ben voilà, on est un peu en Noël, je veux faire un peu d'argent et vendre mon livre, pas du tout. Mais moi, je me compare un peu à Carlo. Carlo, lui, il utilise la peinture pour exprimer son émerveillement face au Créateur. Moi, j'utilise des mots, j'utilise des témoignages, j'utilise toutes mes recherches, ça c'est ma passion, pour amener les personnes à être émerveillées face au Créateur, face au Seigneur. Donc, voilà, c'est un petit livret. Donc, l'idée, c'est de l'offrir à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais l'idée, c'est aussi d'équiper un peu de donner comme une boîte à outils pour ceux et celles qui veulent peut-être gagner en efficacité dans leur évangélisation, surtout dans ce contexte de rationalisme. C'est donc voilà des pistes et notamment aussi donc de nombreux témoignages du miraculeux. Et donc ce livre, je l'avais aussi écrit il y a quelques années en arrière, il me reste quelques exemplaires. Donc ce livre-là n'est pas un livre d'évangélisation, c'est un livre qui est vraiment pour moi un hymne au Dieu merveilleux que nous avons. Dedans, je parle beaucoup du miraculeux, des miracles, signes et prodiges de Dieu et Père de gloire, parce que Dieu est un Père et Dieu est un Père qui nous parle, c'est un Dieu qui agit et avec force, avec bonté. Sa gloire est liée à sa bonté. Donc, moi je vous propose juste la formule suivante, mais le but c'est que justement, ça soit... C'est comme là ce flyer que j'ai vu dernièrement. Venez partager la lumière. C'est partager la lumière autour de vous. Donc ce livre-là s'adresserait plutôt, j'ai envie de dire, à des croyants. Mais il y a des croyants qui ne croient pas aux miraculeux, qui ne croient, enfin, qui sont les sensationnistes qui disent maintenant tout ce qui est dans l'esprit, tout ce qui est miraculeux, ça s'est fait à l'époque, mais ça n'existe plus. Donc je pense que ce livre pourrait être intéressant pour eux. J'y parle notamment de Wayne Grudem. Vous avez déjà entendu parler de Wayne Grudem? Théologie systématique. Wayne Grudem, c'est la référence du monde évangélique. Au niveau, une des grandes références du monde évangélique au niveau théologique. Et il faut voir ce qu'il dit. Il commente l'ouvrage de Jack Deere, qui est un universitaire qui, lui, est à fond dans le miraculeux. Et il dit, ce livre de Jack Deere, dont je parle dans le livre, ce livre, c'est le livre le plus persuasif que j'ai jamais lu à l'égard aussi des personnes qui disent que les dons d'esprit ont cessé. Donc, voilà. L'idée, donc, à l'époque, il coûtait 15 €. Le livre à 840 aussi, après vous êtes peut-être demandé qu'est-ce que c'est que ça, à 840, c'est un peu mystérieux, mais c'est un peu l'idée, c'est que ça soit un peu accrocheur pour les non-croyants, ça fait un peu aussi un peu BD, mais après ils comprendront vite de quoi il s'agit. Voilà, c'est un peu une accroche, et je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit. Donc le livret, il est à 10 €. L'idée, pour moi, à titre personnel, c'est de couvrir partiellement les frais de, d'impression de mise en page que j'ai engendré, que j'ai aussi engagé, pardon, personnellement. Et là, ce livre-là, il est à 15. Moi, je le fais à 5. Si vous pouvez avoir les deux à 15 euros. Mais l'idée, comme dit, c'est de propager la lumière. Et il y a encore un autre livre que je voudrais présenter. C'est celui de Luc Bussière. Alors, je marcherai devant toi. Ce livre parle de l'histoire de l'éducation chrétienne, on va dire, en France. Manuela, elle va préciser. Mais moi, ça m'a fait penser à la fiole d'huile. À la fiole d'huile qui avait été retrouvée, vous savez, par les Maccabées. Pour moi, c'est comme si Luc et Manuela, ils ont retrouvé cette fiole d'huile qui avait été perdue. Hein, quand on voit l'histoire du protestantisme et de l'éducation chrétienne dans le protestantisme français, il y avait toutes ces écoles. Et ensuite, ça avait disparu. Mais c'est comme pour moi s'ils avaient retrouvé cette fiole d'huile. Et ce qui est beau, c'est qu'ils ont fait preuve de courage dans la persécution, parce qu'il y avait justement ces courants de pensée, dualistes, ainsi de suite, qui sont venus contre eux. Mais ils ont tenu bon, et cette fiole d'huile, elle s'est multipliée, Dieu l'a multipliée. On voit toutes les écoles qu'il y a aussi de nos jours, là on cite une école fraîchement née, à travers l'œuvre d'Aurélie, et ça c'est magnifique. Donc j'ai envie de dire, Luc et Manuel, vous êtes comme une Hanoukia de l'éducation chrétienne. Et là, Luc, de quoi il parle dans ce livre? Il parle, bien sûr, de la fidélité de Dieu, du miraculeux de Dieu, d'un Père qui parle. Ça me parle de ce prix qui a été payé, à l'image aussi de ces Maccabées qui ont combattu pour que le temple ne soit plus profané. Et vous êtes battus pour reconsacrer l'éducation à Dieu avec votre fiole d'huile. Et vous avez payé un prix, celui des confrontations aussi multiples. Mais il y avait la passion de Dieu qui est là. Et cette passion, on voit, qui ne baisse pas, n'est-ce pas? Quand on voit, c'est ça qui est beau. Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il fait dans vos cœurs et en faveur de nos enfants. Je voudrais vous donner encore un dernier exemple aussi. Et tu peux projeter l'image, un dernier témoignage. C'est un monsieur qui me... C'est un monsieur qui me touche beaucoup. Et je pense personne... Quelqu'un le connaît ici? Ah oui? Ah oui, vous le connaissez peut-être plutôt dans le monde anglophone. Andrew White, c'est un prêtre anglican. Et ce qui est beau, c'est qu'il a grandi dans un monde à la fois baptiste et pentecôtiste. Et ça, c'est beau parce qu'on a besoin des deux. La parole... D'ailleurs... L'épée de l'esprit, c'est la parole. Ça va ensemble, la parole et l'esprit. Et c'est quelqu'un qui a fait 3 doctorats. Donc je me dis, quelqu'un qui a aussi un certain poids. Il a fait un doctorat de médecine, 2 doctorats de théologie, donc une tête comme ça. Mais il a un cœur encore plus grand. Il est devenu prêtre anglican et il s'est engagé au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il était président d'une association qui s'engageait en faveur de la réconciliation entre les peuples. Donc il y a du travail au Moyen-Orient. Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé servir le Seigneur à Bagdad. D'ailleurs, c'était son surnom, le vicaire de Bagdad. Il a servi le Seigneur sous le régime de Saddam Hussein en Irak et ensuite sous le régime de l'État islamique. En 2014, on lui a dit stop. Tu rentres, c'est trop dangereux. C'est pour ça qu'il a un gilet pare-balles. Et ce monsieur, il a écrit un livre extraordinaire. Et j'en parle aussi dans mes livres. Je me suis régalé. C'est « Miracle, signe et prodige de Dieu dans une zone de guerre ». Donc c'est le titre traduit. Et il racontait qu'un jour, il y a même des gouvernements qu'il sollicitait, parce qu'il connaissait bien le terrain. Et un jour, il a assisté à ce qu'on appelle le siège de Bethléem en 2002. C'était terrible, il y avait une prise d'otages. Et lui, il était engagé dans ce processus-là. Et il raconte que le soir, il est retourné dans son hôtel à Jérusalem. Il était épuisé. Il a dit « Seigneur, Seigneur ». Il a crié au Seigneur. Il a crié au Seigneur. Il dit « Seigneur, faut trouver une solution ». Et ce qu'il raconte, il dit qu'à ce moment-là, il a de la poussière d'or qui est tombée comme ça sur ses mains. À ce moment-là, et il a pris ça comme signe d'encouragement du royaume de Dieu. Et il dit que ce même signe, il l'a vécu lorsqu'il était au chevet d'une femme, d'une chrétienne copte qui était à l'hôpital, maladie grave. Il a jeûné pour cette femme, il a prié. Lorsqu'il a prié, vous avez ces substances, cette poussière d'or qui est tombée sur cette femme, et cette femme ensuite qui s'est rétablie au grand étonnement du corps médical. Ce même Andrew White qui raconte aussi qu'un jour, et ça c'est des choses qu'on ne raconte pas, et c'est vraiment quelqu'un de fiable, il raconte qu'un jour, il a été invité par un gouvernement, un grand gouvernement, merci. Et parce qu'il connaissait bien, c'était encore à l'époque du gouvernement sous Saddam Hussein, donc il avait vu comment Saddam Hussein oppressait le peuple. Et donc ce gouvernement l'a invité pour qu'il puisse aussi les aider un peu à analyser la situation. Et là il dit à ce moment-là, il y avait même un secrétaire d'État à la Défense qui était là, Donald Rumsfeld, qui est décédé. À ce moment-là, il y a eu un temps. Et cette même poussière d'or qui est tombée sur ces membres du gouvernement, tous ces gouvernants, et il a dit il y avait des croyants parmi eux, ils ont dit waouh, ça c'est un signe de Dieu, un signe que Dieu est avec nous aussi dans ces luttes parfois contre les ténèbres. Et ce même White qui dit moi j'ai bénéficié de rapports de guérison miraculeuse, je peux vous montrer tout ça. Et ce même White qui dit, voilà, tous ces signes pour moi sont des signatures du Dieu vivant qui aime ses enfants. Et ce même White qui dit, mais vous savez, le plus grand signe, c'est celui de Jésus-Christ. C'est le signe par excellence. Et c'est ce signe-là, cette lumière, Jésus-Christ, la lumière du monde, lumière des nations, la gloire du peuple d'Israël, c'est lui qu'on veut célébrer maintenant.